Il y a deux mois, le 14 mai dernier, le pape François s'est adressé à son diocèse, au diocèse de Rome, en tant qu'évêque de Rome, et il lui a adressé une admonestation vigoureuse, un sévère discours d'appel à la conversion, qui vaut aussi bien pour l'Église de Paris et de France. Un appel à ne pas rester renfermé en nous-mêmes et dans notre monde paroissial. Un appel surtout à écouter le cri du peuple. C'est ce que dit le Seigneur depuis le buisson ardent. J'ai vu, j'ai entendu la misère de mon peuple. Et le pape François, à ce moment-là, a eu une parole extrêmement forte en reprenant une expression biblique qui était habituellement utilisée par les prophètes, une expression biblique peu connue mais très parlante. Il a dit « Nous sommes devenus, sous certains aspects, un non-peuple. » Un non-peuple. Il ne suffit pas de faire la fête ensemble. Il ne suffit pas de fêter une victoire, si belle soit-elle, pour constituer un peuple. Il ne suffit pas d'aller à la messe le dimanche, de célébrer la résurrection, de fêter la victoire du crucifié du Christ sur la mort pour constituer un peuple. Qu'est-ce qu'un non-peuple ? Les trois traits les plus reconnaissables sont le manque de liberté, l'absence de fécondité et le repli sur soi. Nous devons nous demander, disait le pape, quelles sont les maladies, quels sont les esclavages qui nous enlèvent cette liberté, qui ont fini par nous rendre stériles. Stériles, il suffit de voir le nombre d'ordinations en France, il suffit de voir la chute progressive des baptêmes en France. Stériles. Comme Pharaon voulait Israël sans enfants. Et nous devrions peut-être chercher à savoir aussi qui est ce Pharaon moderne. Qui est ce Pharaon aujourd'hui qui veut empêcher le peuple d'adorer le Seigneur en le rendant esclave d'autres pouvoirs, d'autres préoccupations. Mais nous nous sommes peut-être renfermés en nous-mêmes, dans notre monde paroissial, parce que nous ne faisons pas suffisamment attention aux personnes avec qui nous vivons. Nous ne faisons pas suffisamment attention aux personnes qui nous entourent. L'Évangile dit que Jésus, voyant la foule, fut saisi de compassion. Saisi de compassion envers eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à les enseigner longuement. Longuement signifie bien sûr sans relâche, mais longuement de la part de Jésus signifie doucement, avec douceur, parce qu'il est doux et humble de cœur. De quoi leur parlait-il? Qu'est-ce qu'il leur a enseigné? De quoi leur parlait-il? Ou plutôt, d'où leur parlait-il? Du cœur de Dieu. Du mystère le plus intime de Dieu, le mystère de la Trinité Sainte. Parce que le mystère de la Trinité est le message le plus fort qui puisse être adressé à l'égoïsme humain. C'est le message le plus fort qui puisse être adressé à l'individualisme contemporain. Nous croyons en un seul Dieu qui n'est pas seul, mais qui est communion. Communion de trois personnes, communion du Père, du Fils et de l'Esprit. Et chacune de ces trois personnes est l'amour en personne, inséparable des deux autres. Et il en va de même de la sainteté. La sainteté est pour nous un chemin, elle n'est pas un état, elle est un chemin sur lequel personne n'est seul et personne ne peut avancer seul. Là où un baptisé est présent, le peuple de Dieu doit être présent. Le pape François, dans sa lettre sur la sainteté, citait cette phrase, cette affirmation de la Constitution de Vatican II. le bon vouloir de Dieu, la volonté de Dieu, a été que les hommes ne reçoivent pas la sanctification ni le salut séparément, hors de tout lien mutuel. Dieu a voulu un peuple, qui le connaîtrait selon la vérité et le servirait dans la sainteté. Dieu veut un peuple pour le connaître et pour le servir dans la vérité et dans la sainteté. Et ce chemin, c'est celui de notre vie. Et nous sommes tous, que nous soyons ici ou que nous ne venions pas à la messe, nous sommes tous sur ce chemin qui conduit vers Dieu et qui passe par la mort. La Bible appelle la mort le chemin de tout le monde. Il n'y a pas d'autre chemin dans la vie. Quoi qu'on puisse vous raconter, quoi que vous puissiez entendre, il n'y a pas d'autre chemin dans la vie. Et voyez le tableau que dresse l'évangile de ce dimanche. Tous ces mouvements, ce chassé-croisé qui n'a rien d'estival, cet étonnant chassé-croisé entre ceux qui arrivent et ceux qui partent. Ils sont si nombreux que les disciples n'ont pas le temps de souffler. Le texte, plus précisément, dit qu'ils n'ont pas le temps de manger parce que la suite du texte, c'est la multiplication des pains qu'on entendra dimanche prochain. Mais en réalité, ce qu'ils aimeraient, c'est souffler, prendre un peu de repos, s'arrêter. Voyez dans l'évangile tous ces gens qui se croisent. C'est l'image de notre vie. Il en va ainsi dans notre vie à chacun. Des gens qui arrivent, qui partent, des gens qui se croisent. C'est l'image même de la réalité de l'Église. Faut-il alors être plus attentif à ceux qui arrivent ou à ceux qui partent? Un de mes confrères, qui était interviewé dans le journal du diocèse dans Paris Notre-Dame, comme il change de paroisse, il était interrogé sur les défis qu'il avait eu à relever dans la paroisse qu'il quittait. Et il expliquait que l'un de ses défis, il disait modestement et gentiment, de façon sympathique, il dit « j'ai pas su le résoudre ». C'était l'accueil des nouveaux arrivants, parce qu'il était dans une paroisse, mais c'est vrai dans toutes les paroisses à Paris, où il y a un renouvellement permanent des paroissiens. Et il disait, je le cite, « avec le conseil pastoral, on a réfléchi à cette thématique et on n'a pas trouvé de solution ». C'est assez sympathique, au moins il dit les choses clairement. Je ne suis pas sûr que Jésus ait demandé à ses disciples de veiller à un accueil spécifique des nouveaux arrivants. En tout cas, il ne leur a sûrement pas demandé de contrôler leur situation, de veiller à leur état de vie, de vérifier leur conformité au commandement de Dieu, de leur demander des certificats en tout genre. Comme nous ne cessons de le faire, comme nous l'avons toujours fait, comme nous le faisons beaucoup trop. Ils venaient voir et écouter Jésus. Comme nous, chaque fois que nous venons à la messe. Nous sommes venus voir et écouter Jésus. Vous vous souvenez de cette scène de l'évangile de Saint Jean où des Grecs qui étaient présents à Jérusalem pour la Pâque vont voir Philippe, l'apôtre Philippe, et lui demandent « Seigneur, nous voudrions voir Jésus ». Philippe vient le dire à André, André et Philippe viennent le dire à Jésus. Et que répond Jésus ? « Voici que l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié ». Et la suite, vous la connaissez. « en vérité, si je vous le dis, si le grain de blé ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Mais, à la parole des disciples, « voici des païens qui veulent te voir. » Que répond Jésus ?« L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Comme si la venue de ces païens était le signe, justement, que l'heure était venue. L'heure de séparer, ce qu'on a entendu dans la deuxième lecture de saint Paul, de séparer le mur qui sépare, de briser le mur qui sépare, de réconcilier les uns les autres avec Dieu en un seul corps par le moyen de la croix, de nous réconcilier les uns les autres et de nous réconcilier avec Dieu. C'est une des paroles les plus fortes de l'Écriture. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. On peut très bien avoir la foi extérieurement, avoir une adhésion de l'intelligence, et au fond de soi-même, à cause de ce que nous avons vécu, de ce que nous avons constaté, et en réalité, avoir besoin de cette réconciliation. Qu'est-ce que c'est qu'un non-peuple ? C'est un peuple qui est brouillé avec Dieu. Dans sa lettre sur la sainteté, le pape François présente le sens de la communauté comme la quatrième caractéristique de la sainteté aujourd'hui. Je les ai reprises de dimanche en dimanche au cours de ce mois de juillet. La première, c'est la force intérieure qui vient du Christ, l'endurance, la patience et la douceur. Ensuite, je vous l'ai dit au deuxième dimanche, la joie, le sens de l'humour. Dimanche dernier, l'audace et la ferveur. Et aujourd'hui, en communauté. En communauté. Et dans cette partie de chapitre, l'essentiel du propos du pape, ce ne sont pas des grandes théories communautaires. L'essentiel du propos du pape consiste à rappeler comment Jésus invitait ses disciples à prêter attention aux détails. C'est ça, vivre en communauté. Prêter attention aux détails. Le vin qui manquait lors d'un mariage, la brebis qui manquait au troupeau, l'huile qui manquait pour les lampes lorsque les jeunes femmes attendaient l'époux, le nombre de pains que les disciples avaient pris avec eux dans la barque. La sainteté en famille, en communauté, consiste à veiller à ce qui manque aux autres. C'est ça les détails, c'est ça la réalité de l'amour. C'est ça le cœur inquiet, le cœur amoureux. Nous n'avons pas pour mission de tout combler. Nous n'avons évidemment pas les moyens de répondre à tout ce qui manque, à toutes les personnes que nous rencontrons, qui marchent avec nous sur le chemin de la vie. Mais nous avons pour mission de nous en inquiéter. Et lorsque ce qui manque est le désir essentiel de l'existence, c'est-à-dire que c'est un désir de plénitude, nous avons pour mission de les amener à Jésus. C'est ainsi, mes amis, c'est ainsi que nous constituerons le peuple de Dieu, dont le Christ est le centre, l'unité. Il est notre paix, dit saint Paul. Voilà les trois traits les plus reconnaissables. La liberté, la fécondité et l'ouverture à l'espérance. C'est ainsi que conclut le pape dans cette énumération des petits détails. Il a cette belle image. Le petit détail d'avoir allumé un feu de braise avec du poisson posé dessus, tandis que Jésus attendait les disciples à l'aube. Voilà la plus belle image de la vie en communauté avec le Christ. Il nous attend. Le feu de braise avec du poisson posé dessus, tandis que Jésus attendait les disciples à l'aube. En communauté pour une vie nouvelle.